Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro du commentaire de la Parashat de la semaine sur Radio Judaïka Strasbourg, émission spéciale encore aujourd'hui qui sera consacrée à la fête de Sukkot qui débute dimanche soir. À mes côtés, Abraham Harold Veil, le grand rabbin de Strasbourg et du Barin. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Nous lirons demain la Parashat de Haazinu. Une petite paracha, l'allumage des bougies ce soir entre 17h58 et 18h24. Et demain, la fin des Shabbat, à partir de 19h41. Les horaires uniquement valables pour Strasbourg et sa région. Comme chaque semaine, M. Grandma, un petit bonjour particulier à nos aînés et aux personnes isolées et refoua chelma aux personnes qui sont malades. On va, M. Grandma, parler d'abord de Kippour qui s'est déroulé mercredi soir. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est quoi le bilan, je dirais, de ce Kippour à Strasbourg?
Écoutez, on est toujours, on va dire, dans une dimension de pudeur par rapport à Yom Kippour qui vient de se passer, parce qu'on a l'espoir que nos prières aient été acceptées, que nous ayons été à la hauteur, comme je le dis, de ce rendez-vous. Et il y a toujours l'excitation et j'ai envie de dire même un petit peu d'exaltation lors de la préparation des fêtes de Sukkot. Et là, pour le coup, avec un Shabbat au milieu qui ne facilite pas forcément l'organisation des fêtes de Sukkot, avec la construction de la Sukkah et tout ce qu'il y a à faire, on n'a pas perdu de temps. Donc c'est vrai que parfois, on sort très rapidement de la fête de Kippour et on se projette immédiatement dans Sukkot. Mais pour autant, je pense qu'il y a aussi un bilan à tirer de la manière dont les offices se sont déroulés. Mmh. Et ce bilan est très satisfaisant puisque les offices se sont véritablement bien déroulés. Il n'y a pas eu d'incident particulier. Je pense que les offices ont été appréciés, hein, dans l'ensemble des synagogues. Et on est toujours ravis, je le dis, on est toujours très très heureux de voir nos synagogues se remplir, de voir des personnes que nous n'avons pas forcément l'habitude de voir le reste de l'année, que nous invitons, et je réitère cette invitation au micro de Radio Judaïka, que nous invitons à venir toute l'année, pas uniquement durant la fête de Yom Kippour, et ne pas attendre donc l'année prochaine pour revenir nous voir. Et Sukkot, je le dis chaque année, mais c'est un moment tellement sympathique, tellement convivial. On a ici une souka qui est ouverte pendant toute la semaine, et hormis les séquences des repas de Yom Tov, de jours de fête, eh bien la souka est accessible en libre service, il n'y a même pas besoin de réserver pour les autres jours, les jours de Chol HaMoed, ce qui donne l'opportunité vraiment à chacune et à chacun de venir passer un petit moment dans cette souka. C'est ouvert, c'est gratuit, on vient avec son café, on partage un petit moment convivial, et c'est toute la beauté de la fête de Sukkot, vraiment des rencontres, de la joie, de la simcha. Donc ne pas attendre l'année prochaine pour venir nous rendre visite à la communauté, et pourquoi pas faire le pas immédiatement durant cette fête de Sukkot, pour prendre de bonnes résolutions.
En plus, le temps le permet, donc c'est encore mieux. On va parler de M. le rabbin de Haazinu. C'est la paracha qu'on lira demain. Une paracha, je l'ai dit, très courte. Et dans le Sefer Torah, comme dans les Chumashim, il y a deux grands blocs. C'est en fait une forme de poésie qu'on va lire demain. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Alors, cette paracha est... C'est une paracha extrêmement belle, extrêmement difficile, hein, parce que ce poème auquel vous faites allusion, qui nous a été annoncé déjà dans la paracha de la semaine dernière, et dans lequel Moshe va avoir cette vision prophétique, comme nous le dit Nachmanide, de l'histoire du clan Israël. Hein. Je rappelle que c'est une des dernières parachas de la Torah, l'avant-dernière, que c'est dans cette paracha que Moshe va faire ses adieux au clan Israël, même si c'est dans la dernière paracha, celle que nous lirons le jour de Simchat Torah, que la mort de Moïse est inscrite dans le texte. Mais les adieux de Moshe Rabbeinu, eh bien, c'est à la fin de cette paracha que Moshe les fait. Et donc dans dans ce poème, dans cette shira, eh bien, Moshe va passer en revue toute l'histoire du clan Israël, avec les bons moments, avec les errements, malheureusement, les infidélités dont le clan Israël s'est parfois, malheureusement, trop souvent rendu coupable, et les conséquences qu'ont eues, malheureusement, ces infidélités. Et c'est une paracha qui, parfois avec des mots assez énigmatiques ou avec des phrases un petit peu difficiles, eh bien, n'est que le reflet en réalité de l'histoire du clan Israël, qui est une très belle histoire, mais émaillée de on va dire, de certains défis et de certains moments particulièrement difficile, compliqué. Donc, très très belle.
Pourquoi on a décidé, en tout cas, à Kadosh Barouh, de faire ça je dirais, en poésie, de façon très différente du reste de la Torah. C'est voulu, c'est quelque chose de...
Alors, je le dis, la Shira est quelque chose de très, très marquant. Déjà, visuellement, bien sûr, c'est marquant. Et donc, c'est un texte qui interpelle le lecteur. Hein. Vous savez, lorsque la Torah veut interpeller le lecteur, elle le fait par des signaux forts, par des choses qui montrent... J'ai déjà eu l'occasion, je pense, au cours de cette émission, de donner des explications, parfois, sur le fait qu'une paracha soit stouma, qu'elle soit écrite d'un seul bloc, sans espace. On sait que les espaces sont importants, puisque un espace dans la Torah, Jean, c'est quelque chose qui permet, nous disent nos maîtres, de prendre un petit peu de recul par rapport aux choses. Donc ce n'est jamais pour rien que l'on décide d'écrire une nouvelle paracha. Une nouvelle paracha, hein, dans le langage rabbinique, c'est pas forcément une nouvelle sidra, c'est pas forcément une nouvelle sidra de la semaine, mais c'est tout simplement un nouveau passage. Voilà. Il arrive que dans une même sidra, dans une même lecture hebdomadaire de la Torah, eh bien, il y ait ce qu'on appelle plusieurs parachias, c'est-à-dire plusieurs blocs auxquels vous faisiez allusion. Et à chaque fois que la Torah décide tout simplement de laisser un espace et puis de reprendre l'écriture un petit peu plus loin, ou mieux encore, d'aller à la ligne, eh bien, c'est que la Torah souhaite nous donner la possibilité de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui a été écrit avant d'entamer le passage suivant. Donc ces passages-là permettent pas simplement d'aérer le texte. Hein, on n'est pas, bien sûr, la Torah n'est pas écrite, c'est pas un document Word, hein, c'est pas, on n'est pas dans du traitement de texte où on essaie simplement visuellement de faire beau, mais il y a un message et une volonté lorsqu'on met des espaces, donc à la fois d'attirer l'attention, mais aussi de donner la possibilité au lecteur de prendre un petit peu de recul et de hauteur par rapport à tout ce qui a été écrit.
Comme pour Kippour.
Tout à fait. On prend un peu de hauteur.
Voilà. Alors on va parler de Sukkot, la fête qui démarra dimanche soir. L'allumage des bougies pour ces fêtes de Sukkot entre 17h34 et 18h24. Et Chol Hamoed, ce sera à la fin, enfin le début de Chol Hamoed, mardi à 19h35. Monsieur Gourabin, quand on lit la Torah, il est écrit finalement que cette fête des cabanes a été instituée pour rappeler aux gens, d'Israël, que les enfants d'Israël à l'époque du désert ont vécu dans les cabanes. C'est juste ça l'explication ?
Alors, vous, au travers de votre question, rappelez ce que nous dit le verset de la Torah, Lévitique chapitre 23, où Dieu dit, eh bien, durant 7 jours, vous résiderez dans des cabanes, car moi-même, nous dit Akadosh Baruch Hu, les manidoudorotechem, afin que vos générations sachent que moi-même, eh bien, j'ai installé les enfants d'Israël dans des cabanes au moment de la sortie d'Égypte. Vous allez me dire, Jean, autant la Torah nous raconte de manière extrêmement claire la manière dont s'est passée la sortie d'Égypte, avec les différents miracles, les 10 plaies, qui est toujours un moment spectaculaire, une histoire qui plaît beaucoup aux enfants, l'ouverture de la mer Rouge, bien sûr, mais autant, voilà, on ne voit pas précisément de quelle manière s'est réalisée cette installation dans les cabanes au moment de la sortie d'Égypte. Alors il y a une discussion entre nos maîtres à ce sujet, très intéressant, dans la Gemara, dans le Talmud, pour savoir est-ce qu'il s'agit de véritable cabane physique, ou bien est-ce que c'est une allusion ici qui est faite à des cabanes qui seraient plutôt spirituelles, c'est-à-dire des nuées, les nuées de gloire qui ont entouré de tous les côtés le peuple d'Israël afin de le protéger, donc au niveau des 4 points cardinaux, ainsi qu'au-dessus et en dessous, et qu'il les accompagnait, et également qu'il les protégeait de toutes sortes de...
Et pourquoi on n'aurait pas dit tout simplement que c'est des nuées ?
Alors, il y a ici, justement, comme les choses ne sont pas dites, sans doute une volonté, peut-être, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'incompatibilité forcément entre ces deux avis, de nous dire qu'en réalité, les deux dimensions ici sont représentées au travers de cette mitzvah de la Souka, c'est-à-dire que Dieu a véritablement installé, lorsque notamment les Bnei Israël sont arrivés à leur première étape, la ville de Soukhot. C'est intéressant, la première ville s'appelait Soukhot. Le texte nous le dit, « Vaïssou Bnei Israël mais Ramsès Soukhota ». Lorsque les Bnei Israël ont quitté l'Égypte, ils ont voyagé de Ramsès jusqu'à la ville qui s'appelait la ville de Soukhot. Et elle ne s'appelle pas la ville de Soukhot pour rien, c'est parce qu'il y a eu un lien entre cette ville-là et justement les Soukhot, les cabanes, et que donc on peut imaginer que Dieu ait fait des cabanes pour que les Bnei Israël puissent s'installer et qu'ils puissent se reposer, qu'ils puissent être protégés de tous les nuisibles qui se trouvaient dans le désert. Hein. Il faut imaginer les Bnei Israël en plein milieu du désert. Le désert, c'est un endroit dans lequel il y a des animaux sauvages, dans lequel il y a des scorpions, dans lequel il y a toutes sortes de dangers. Donc une volonté pour Dieu de protéger, de venir entourer de son amour le clan Israël. Et puis, par la suite, eh bien, la mise en place de ces nuées de gloire qui sont peut-être en réalité le résultat déjà de la confiance témoignée par le peuple d'Israël à Dieu. Jean, il faut rappeler, c'est très important, que le peuple d'Israël à ce moment-là est encore extrêmement fragile psychologiquement. Nous sommes quelques jours après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël est en train petit à petit de remonter la pente. Je vous rappelle qu'il a, frôlé la 50e porte d'impureté, qui était véritablement le point de non-retour, que Dieu les a sortis juste à temps et qu'il faut se reconstruire. C'est un peuple encore extrêmement immature et la confiance déjà que le clan d'Israël témoigne à Kadosh Baruch Hu dès les premiers jours de la sortie d'Égypte est extrêmement importante. C'est celle qui donne envie à Dieu d'aller plus loin dans cette relation, dans cette histoire avec le peuple juif. D'où ces nuées de gloire qui vont accompagner le clan d'Israël durant toutes ces années dans le désert. Et c'est donc peut-être en réalité ces deux dimensions que l'on rappelle, même s'il y a une discussion dans la Gemara, qu'on pourrait imaginer que ces deux dimensions ne soient pas compatibles. Je pense qu'on peut aller vers une troisième voie qui est une compatibilité entre ces deux dimensions, l'une étant le reflet de l'autre.
Alors, il y a quand même une symbolique dans cette fête de Sukkot ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment pour se souvenir de l'Israël? Il y en a qui parlent d'une symbolique en disant que finalement, Dieu éprouve le peuple pour voir si effectivement il a accepté le joug divin et d'aller jusqu'à s'extraire de son matériel, ou est-ce qu'il y a d'autres pistes qu'on peut...
Alors, il y a une très grande symbolique, puisque la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu a choisi de construire des Sukkot et pourquoi est-ce que Dieu n'a pas construit une maison. Si Dieu est omnipotent, il aurait très bien pu construire un véritable immeuble ou une maison, un abri en dur pour le clan d'Israël, de manière à lui permettre de se protéger. Or, Dieu a volontairement choisi de construire quelque chose de précaire. Et cette précarité, c'est celle qui nous invite à considérer notre existence toujours en toutes circonstances comme quelque chose d'extrêmement précaire. Nous sortons du Yom Kippour et peut-être l'erreur pourrait se produire, et parfois de manière, presque légitime, parce que finalement on se dit qu'on a fait beaucoup d'efforts durant toute la préparation aux fêtes de Tishri, que pour certains on se lève déjà très très tôt depuis le début du mois d'Eloul, pour d'autres on a commencé les slichot un petit peu plus tard, mais il y a eu toute une préparation, chacun à son niveau, pour se confronter et pour être prêt à se confronter aux fêtes de Tishri, au jugement de Rosh Hashanah, à la fête de Yom Kippour. Et donc, il pourrait y avoir un petit relâchement après la fête de Kippour, avec ce soulagement dont je parlais tout à l'heure, et se dire que, ça y est, maintenant qu'on a remis les compteurs à zéro, on peut un petit peu se laisser aller, ou au contraire, même exprimer une certaine fierté à avoir accompli notre mission. La fête de Sukkot est à la fois une fête d'une grande, grande joie, parce qu'on l'a dit, c'est vraiment la célébration maintenant de la proximité avec HaKadosh Baruch Hu, et de fêter avec lui le fait qu'il nous ait pardonné, mais c'est aussi absolument nous inviter à rester en toutes circonstances humbles, et le fait d'aller dans des habitations qui sont des habitations précaires, c'est nous rappeler à ce devoir d'humilité. Donc rien n'a été choisi au hasard pour la fête de Sukkot. Cette fête, a priori, n'a absolument pas sa place en Tishri, puisque cet événement qui fait immédiatement suite à l'histoire de Pessah, enfin à l'histoire de la sortie d'Égypte, aurait dû prendre place dans le calendrier juste après la fête de Pessah. Donc on aurait dû célébrer Sukkot au mois de mai, au mois de juin, enfin dans notre calendrier, en tout cas immédiatement après la fête de Pessah, peut-être à la fin du mois de Nissan ou au début du mois d'Iyar. Nos maîtres nous expliquent pourquoi. Le Tour notamment rappelle qu'on a souhaité, on a tenu absolument à ce que le clan d'Israël puisse, au travers de sa sortie dans les Sukkot, montrer, manifester qu'il accomplit bien cette mitzvah pour la mitzvah, et non pas pour profiter du beau temps, comme cela peut se faire couramment pendant les périodes de beau temps, la période estivale qui commence pour ceux qui ont des jardins et qui voudraient profiter du beau temps dans le jardin. Donc il y a une volonté de montrer que cette mitzvah est accomplie pour la mitzvah en elle-même, mais aussi la concomitance, avec les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, et donc la fête de Sukkot qui est une suite logique. Il y a eu Rosh Hashanah, il y a eu Kippour, il y a une volonté tout de suite après la fête de Kippour de garder, d'entretenir cette flamme et de garder cette proximité que nous avons touché du doigt avec HaKadosh Baruch Hu au moment de la fête de Kippour, et cela se fait avec cette intimité dans les Sukkot, la maison d'HaKadosh Baruch Hu.
Alors, il y a les Sukkot, c'est une des mitzvahs, il y a le Lulav aussi, on va en parler dans un instant. Est-ce qu'il y a d'autres mitzvahs à faire pendant Sukkot? Est-ce qu'on nous oblige à faire autre chose?
Alors, vous avez rappelé les deux mitzvot essentielles de la fête de Sukkot, donc résider dans les Sukkot pendant 7 jours. La mitzvah des 4 espèces dont nous allons parler dans un instant, ce sont les deux mitzvot qui sont rappelés, qui sont mentionnés par la Torah, Rappelons d'ailleurs que ces mitzvot-là ne sont des oraita, des mitzvot de la Torah, que le premier jour. Même si, bien sûr, nous les accomplissons maintenant pendant toute la fête, enfin, pas pour la fête, pas pour la Soukhot. On a une obligation, bien sûr, de manger dans les Soukhot, comme nous dit la Torah, Shivat Yamim, pendant 7 jours. Mais la mitzvah, en tout cas, de consommer du pain dans la Soukha n'a lieu que le premier soir.
Ah.
D'accord. Ne comprenez pas pour autant qu'il n'y ait pas d'obligation de manger le reste des repas dans la soukha. C'est simplement que si quelqu'un, par exemple, voudrait, durant le reste de la fête de Soukhot, ne boire que de l'eau et manger du chocolat, théoriquement, il pourrait le faire en dehors de la soukhot, en dehors de la soukha. Alors, le premier soir, il y a une obligation absolue, qu'on ait faim ou qu'on n'ait pas faim, à s'asseoir dans la soukha et à consommer ce soir-là une quantité minimale de pain. Ouais. Exactement. Voilà, au moins un kazaït, au moins 30 grammes de pain dans la soukha le premier soir. La mitzvah des arba minim, même si on l'accomplit, cette mitzvah des quatre espèces, pendant toute la fête de Soukhot, elle n'est d'ordre toraïque que le premier jour. Les autres choses que l'on peut rappeler durant la fête de Soukhot, qui ne sont pas des mitzvot à proprement parler, en tout cas pas des mitzvot aujourd'hui toraïques, mais dont on a l'habitude de marquer le souvenir, c'est notamment par exemple cette tradition de la Simcha Bet Hashoeva, cette fête du puisement de l'eau qui avait lieu à l'époque du temple, hein, puisque toute la fête de Soukhot, j'en tourne autour de la notion de l'eau. Je vous rappelle que la Mishnah nous enseigne que c'est à Soukhot, durant la fête de Soukhot, que nous sommes jugés pour toute l'année sur les quantités d'eau. C'est intéressant parce que c'est très très actuel. Hein.
Ouais.
Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de problèmes, de ressources, et nous l'avons malheureusement vu de manière un petit peu brutale cet été avec tous les problèmes de sécheresse, effectivement, de restrictions d'eau. Rappelons que c'est à Soukhot que nous sommes jugés sur les ressources en eau pour toute l'année à venir, et à une période où on nous parle beaucoup au-delà de l'eau, même de restrictions en matière d'énergie et de problématiques en matière d'approvisionnement en énergie. C'est intéressant de rappeler qu'en réalité tout se joue à ce moment-là. Donc tout va tourner autour de la problématique de l'eau et cette Simcha Bet Hashoeva, donc cette fête extraordinaire qui avait lieu à l'époque du Bet Hamikdash autour de ces libations d'eau qui étaient faites exclusivement durant la fête de Soukhot, eh bien nous avons l'habitude, nous aujourd'hui, d'y faire un petit rappel, un petit souvenir en organisant également des smachot Bet Hashoeva, des fêtes durant la période de Chol HaMoed.
Alors, on l'a dit, il y a quatre espèces, on va les rappeler pour tout le monde. Deux questions et vous savez, vous en même temps. D'abord, on nous dit que les quatre espèces correspondent à trois ou à quatre catégories de personnes dans le monde. Et deuxième question, pourquoi on demande de lier de façon extrêmement importante en termes de ligation, avec des liés vraiment de façon matérielle aussi, ces quatre espèces.
Alors, la Torah nous dit « Ulkartem lachem bayom arishon ». Donc, vous prendrez le premier jour de la fête de Soukhot les quatre espèces en question, qui sont donc Peri et Tzadar, le fruit de l'arbre magnifique. Les Chachamim nous enseignent qu'il s'agit du Etrog, du Cédra. Capote Temarim.
C'est ce qui ressemble au citron.
C'est ce qui ressemble un petit peu, effectivement, à un citron. Mais attention, ne surtout pas acheter un citron. Hein. On a aujourd'hui beaucoup de vendeurs de arba minim de quatre espèces. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'acheter les arba minim, vous avez l'occasion de le faire jusqu'à dimanche inclus. Tous les vendeurs de arba minim de Strasbourg seront encore ouverts dimanche. Ils ont encore de la marchandise en stock. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à quel point il est merveilleux de voir comment est-ce qu'en l'espace de quelques années, eh bien, cette mitzvah s'est démocratisée, et une mitzvah qui était réservée il y a encore quelques années en arrière vraiment à une élite, ou en tout cas on va dire que dans ce qu'on appelle la grande communauté, à vraiment quelques personnes uniquement. Aujourd'hui, c'est totalement démocratisé et nous voyons aujourd'hui
les prix aussi sont abordables.
Alors les prix sont peut-être un petit peu plus abordables effectivement qu'il y a quelques années, mais pour autant, les gens ont pris conscience de l'importance de réaliser cette mitzvah. Hein. Elle n'est pas réservée à une élite. Il n'y a pas d'élite de toute façon chez nous. Ça n'existe pas, une élite religieuse ou une élite intellectuelle. La mitzvah, c'est une mitzvah qui concerne tout un chacun. Et au contraire, je pense que peut-être même encore plus que toute autre mitzvah, elle doit parler à tout un chacun, puisque ces quatre espèces. Donc je le disais. Donc donc le Priyat Sadar, hein, pour ne pas se disperser, le Cedra Capotemariv, qui est cette branche de palmier, donc c'est l'espèce qui se distingue le plus, puisque c'est la plus grande, la plus longue, c'est ce qu'on appelle le loulav, Anaf et Tzavot et Arve Nachal, donc Anaf et Tzavot qui sont les branches de myrte, les Hadassim, et Arve Nachal qui sont donc les branches de saule, et bien ces quatre espèces qui représentent quatre types, comme vous le disiez, quatre types de personnes, hein, quatre types de membres du clan Israël, le Etrog qui a une bonne odeur et également un bon goût, qui représente celui qui a à la fois les connaissances en Torah mais également les bonnes actions, le Loulav qui lui a un bon goût mais qui n'a absolument pas d'odeur, représente les personnes qui ont la Torah mais qui n'ont pas les bonnes actions. Les Hadassim qui, eux, à l'inverse, les branches de myrte, ont une bonne odeur mais qui n'ont pas de goût, représentent ceux qui n'ont pas de Torah, qui n'ont pas eu la chance d'avoir les connaissances en Torah mais qui pour autant peuvent se targuer d'avoir à leur compte des bonnes actions. Et Arve Nachal, les branches de saule, qui elles n'ont ni goût ni odeur et qui représentent donc ceux qui n'auraient ni bonnes actions ni Torah. Et pour autant, il y a une volonté à Sukkot de lier toutes ces personnes ensemble, parce que ces personnes appartiennent à un même peuple, parce que la fête de Sukkot, c'est une fête qui a une dimension universelle, c'est une fête durant laquelle nous sommes contents de nous retrouver après la fête de Kippour, justement tous ensemble. La fête de Kippour est sans doute l'occasion d'une prise de conscience que dans la communauté, il y a des gens qui ont la chance d'avoir déjà à leur actif à la fois de la Torah, à la fois des bonnes actions, d'autres qui n'ont qu'une des deux dimensions et d'autres qui n'ont absolument aucune des deux dimensions, mais qui pour autant, appartiennent à une même communauté, appartiennent à un même tout. Et la volonté que nous avons, c'est de nous réunir tous ensemble, d'espérer peut-être que les uns puissent enrichir les autres, jamais avec leurs défauts, toujours avec leurs qualités, que le Etrog qui a une très très bonne odeur, en le rapprochant des autres espèces, comme c'est le cas des Hadassim également, que cette odeur puisse se transmettre aux autres espèces, que ceux qui ont du bon goût puissent éventuellement transmettre ce bon goût aux autres espèces. Et c'est finalement en mettant toutes ces personnes-là ensemble que l'on espère pouvoir en tirer le meilleur. Donc c'est pour ça que cette mitzvah, je pense qu'elle doit parler à tout un chacun, et que le fait que les gens se la soient appropriés, au travers de ces dernières années, on le voit clairement, je pense que la vente des Arba Minim a dû être multipliée par, par 50, par 100, je donne des chiffres qui sont peut-être un petit peu farfelus, mais c'est absolument incroyable de voir à quel point aujourd'hui, chacun tient absolument à avoir ces quatre espèces pour pouvoir les agiter et pour pouvoir montrer à quel point il est fier d'appartenir à ce peuple dans l'unité.
Alors justement, il y a un sacré cérémonial avec les loulav, d'abord les prendre dans les mains, de toute façon avec la main droite ou la main gauche. On fait la bracha dessus, on les lève, on les baisse, on va à droite, à gauche. C'est quoi, c'est une danse nouvelle qu'on fait
Alors, il ne s'agit pas d'une danse, il ne s'agit pas d'un rituel qui pourrait ressembler de près ou de loin à de la sorcellerie, ou à un rituel vaudou. Mais il s'agit tout simplement d'une volonté de montrer qu'Akadosh Baruch Hu, le fait d'agiter ce loulav aux quatre points cardinaux, comme nous l'enseignent nos sages, ainsi que en direction du ciel et en direction de la terre, c'est montrer l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu, montrer qu'il est présent partout dans notre vie. Alors pourquoi le faire avec le loulav? Tout simplement parce que cette volonté, alors on a d'autres moyens durant l'année et d'autres tfilotes ou d'autres cérémoniaux par lesquels nous rappelons l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu, mais le fait de le faire juste après Yom Kippour, je le dis, c'est dans un moment qui est propice à une certaine forme d'orgueil, parce que on est content d'avoir rempli notre mission et d'avoir remis les compteurs à zéro, et peut-être que fort de cette remise des compteurs à zéro, un homme pourrait se dire qu'il a de nouveau un crédit à utiliser jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est vraiment le rappeler à une certaine forme d'humilité. Donc c'est important de le faire en se disant attention, ne jamais oublier que Akadosh Baruch Hu se retrouve, m'accompagne, qu'il est présent dans ma vie en permanence. Et donc c'est rappeler cela à l'homme à ce moment-là, durant la fête de Sukkot. Avec ces quatre espèces, et on l'a dit, avec des espèces qui sont directement liées à la nature. Premièrement, je le disais qui vient à l'esprit, esprit. Premièrement, c'est que j'ai parlé d'une fête qui tourne beaucoup autour de l'eau. Et donc, ces espèces-là, ce sont des espèces, quatre espèces, qui ont toutes besoin de beaucoup d'eau. Le hétrog a besoin d'énormément d'eau pour pouvoir se développer. Mais le palmier aussi, l'arbre du palmier également. Les hadassim, la ravotte, ce sont également des espèces qui sont directement en rapport avec l'eau. La ravotte, elle pousse directement au bord de l'eau. Et donc, finalement, ces espèces-là, l'eau, c'est la vie. Mais l'eau, c'est également tout le symbole de la Torah. Donc, c'est rappeler vraiment le lien qui existe directement entre à la fois la vie matérielle, cette vie spirituelle et la manière dont HaKadosh Baruch Hu régit le monde. Donc, il y a vraiment un lien extrêmement fort entre la dimension de l'eau qui représente la Torah, qui est symbolisée par ces espèces, et à la fois, la deuxième chose que je voulais évoquer, Jean aussi, eh bien, c'est on va dire la simplicité, finalement, de ces espèces. C'est très, très important. Voilà, l'homme doit rester dans une certaine forme de simplicité, et donc il n'y a rien d'ostentatoire. C'est ça ce qui est extrêmement beau dans ces quatre espèces. C'est que, alors, certains vont un petit peu rigoler, parce que quand on voit parfois le prix que peuvent coûter ces espèces, parce qu'il y a aussi une mitzvah particulière que l'on apprend de Sukkot, d'accomplir les mitzvot de la plus belle des manières qu'ils soient, de ne pas se contenter de les accomplir au rabais, mais de choisir vraiment des espèces qui soient belles. Alors, c'est parfois un peu exagéré, hein, j'en conviens, Jean. L'arba minime qui peuvent atteindre parfois des prix exorbitants, et pour autant, il n'y a rien d'ostentatoire, hein, dans ces quatre espèces. Au contraire, elles ont une simplicité qui les rend, j'ai envie de dire, belles, tout simplement belles naturellement. Et c'est cette simplicité qui est également très, très importante au moment de la mitzvah, d'accomplir la mitzvah d'arba minime. Je dis une dernière chose, je rappelle que vous m'avez parlé de ninouim, hein, de secouer, donc bien sûr, c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est de les secouer, en tout cas, la mitzvah. De manière mehouderet, de l'accomplir vraiment correctement. Mais je rappelle que d'un point de vue thoraïque, le simple fait de prendre les quatre espèces, de les prendre tout simplement, eh bien, nous fait déjà accomplir la mitzvah, puisque la Torah nous demande de les prendre.
Un mot, parce qu'on va arriver à Chol HaMoed à partir de mardi soir. Est-ce qu'il y a des interdits particuliers pour Chol HaMoed, ou est-ce qu'on peut tout faire, entre guillemets?
Non, on ne peut pas tout faire. Les lois de Chol HaMoed, Jean, sont les lois sans doute les plus compliquées, sont à la halakhot les plus complexes. Donc vraiment, je vous invite, aujourd'hui, on a beaucoup d'ouvrages en français pour se familiariser avec ces lois. Je vous invite aussi à prendre contact auprès de vos rabbanim. Hein. On a aujourd'hui beaucoup de groupes WhatsApp et beaucoup de moyens extrêmement faciles de contacter les rabbanim lorsqu'on a des questions sur Chol HaMoed. Il y a énormément d'interdits à Chol HaMoed parce que les gens pensent, à tort, malheureusement, trop souvent que Chol HaMoed est complètement déconnecté des jours de Yom Tov. Ce sont encore des jours de fête qui ont un statut particulier et durant lesquels ne seront autorisées que des choses qui servent à la fête.
Une seule question, parce que c'est celle qui demande tout le monde. Est-ce que le jour de Chol HaMoed ou les jours de Chol HaMoed, j'ai le droit d'aller travailler?
Non, on n'a pas le droit d'aller travailler, ce sont des jours de fête. On n'a pas le droit d'aller travailler si quelqu'un a... Alors, c'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre contact. Il y a des subtilités, bien sûr, par rapport à certaines professions, par rapport à certaines obligations que peuvent avoir certaines personnes par rapport à la particularité de la profession qu'ils exercent. Et donc, bien sûr, je vous invite, pour régler toutes ces questions et avoir des réponses claires, à contacter vos rabbanim, parce qu'on ne peut pas traiter ces questions dans les détails à la radio. Elles sont vraiment très, très dépendante de tous les détails et tous les éléments qui sont liés à la profession exercée et au contexte. Mais si vous me posez la question, d'une manière générale, non. Quelqu'un qui peut ne pas travailler à Chol HaMoed ne doit pas travailler à Chol HaMoed, qui est un jour de fête. On ne travaille pas durant un jour de fête. Et même si, comme vous l'avez dit, ce ne sont pas des jours de Yamim Tovim, pour autant, ce sont des jours de fête où on continue à s'habiller comme un jour de fête, où les offices sont également des offices particuliers. Il y a un office de Moussaf et on doit totalement rester dans l'esprit de la fête durant cette période de Chol HaMoed. On sait que c'est pas facile parce que les fêtes de Tishri, eh bien, ce sont des fêtes où on a énormément de jours chômés, donc c'est pas toujours facile pour l'organisation. C'est une réalité, mais puisque vous posez la question, je tenais aujourd'hui à rappeler que ces jours sont trop souvent, à tort, mais souvent par ignorance, c'est bien considéré comme des jours de Chol. Alors, ils ne sont pas des jours de Chol, ils sont des jours, comme vous l'avez dit, genre de Chol HaMoed.
D'accord. Monsieur Grand, merci beaucoup. À très très bientôt pour un nouveau rendez-vous du commentaire à la paracha. On peut dire Kutyom Tov, comme on dit en Alsace.
Kutyom Tov.
Kutyom Tov. Merci à vous. Merci à Thomas pour la réalisation technique de cette émission. À vous tous, bonne fête et à très bientôt.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Yidelech, prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air.